Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, Mandine, arnacienne tout d'abord et atteinte de myopathie des ceintures, elle porte témoignage dans cette édition à l'occasion de la mobilisation annuelle du Téléthon 2019. Puis, découverte de la nouvelle exposition temporaire du musée Paul Dini à Villefranche, en compagnie de Marie-Lou Perrineau-Nosca, responsable des services du public du musée. Et en conclusion, sur la scène du théâtre de Villefranche, très prochainement, les troupes sélectionnées pour cette nouvelle édition du Festival de théâtre amateur Terre de Seine, à l'initiative de l'OCV. Nous recevons la troupe de théâtre en soie de Morancé, la compagnie du boulevard de Glézy. Calade, le journal. Dans une tribune du journal Le Monde, on peut lire « Quelques jours à peine après la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, célébrée chaque année le 17 octobre, le gouvernement envisage de supprimer l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Un tel symbole ne pouvait passer inaperçu. Créé par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, loi fondatrice des politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté. » L'Observatoire est composé à parité de représentants des grandes administrations publiques comme l'INSEE, le ministère de l'Économie, les directions statistiques des ministères du Travail et des Affaires sociales, mais également de chercheurs et d'universitaires spécialistes du domaine en France et en Europe, ainsi que de personnalités qualifiées issues du monde associatif. Il a permis durant 20 ans, par la publication de plus de 10 rapports, de très nombreuses études et recherches et par la diffusion d'un tableau de bord annuel sur la pauvreté, notamment celle des enfants, d'éclairer le débat public sur la réalité de ce phénomène en France et en Europe. On peut dès lors s'interroger sur les raisons qui ont poussé les pouvoirs publics à vouloir supprimer un outil utile à la connaissance d'un problème aussi essentiel que la cohésion nationale qu'est l'exclusion de plus en plus d'une personne sur 10 en France. Il suffit de se reporter au dernier rapport publié par l'Observatoire pour constater que la nature des travaux engagés justifie pleinement qu'un tel organisme unique en Europe puisse poursuivre son travail d'analyse et de compréhension des mécanismes économiques et sociologiques qui sont à l'origine du développement de la pauvreté. D'autant plus qu'elle continue de toucher en France aux alentours de 9 millions de personnes et que les politiques publiques mises en œuvre depuis de nombreuses années peine à réduire le nombre d'exclus. L'invisibilité de certaines populations qui, bien que pauvres, n'apparaissent pas dans les statistiques publiques et ne font donc pas l'objet de politiques spécifiques. L'objectif recherché est-il de casser le thermomètre pour ne plus voir le malade ? Mandine, arnacienne, est atteinte de myopathie des ceintures. Elle porte témoignage dans cette édition à l'occasion de la mobilisation annuelle du Téléthon 2019 des 6 et 7 décembre prochains. Un appel aux dons pour multiplier les victoires et vaincre la maladie, comme elle nous le confie.
Donc, je m'appelle Mandine Casado, je suis atteinte d'une myopathie des ceintures et plus particulièrement d'une calpainopathie. Il faut savoir que dans les myopathies des ceintures, donc il y a plus de 30 gènes qui ont été identifiés comme causant la maladie. On est donc classé comme maladie rare avec, bon, moi j'ai un petit peu de chance, du coup je fais partie de la version la plus fréquente des myopathies des ceintures, mais pas forcément la plus simple au niveau des traitements. Donc j'ai 33 ans. C'est une maladie qui a apparu dès mon plus jeune âge, mais avec des symptômes très faibles au départ. Donc je marchais uniquement sur la pointe des pieds avec une rétractation musculaire. La faiblesse musculaire est vraiment apparue à l'adolescence avec une perte progressive de la marche. Donc aujourd'hui, oui, je suis en fauteuil roulant. Enfin, je me déplace au quotidien en fauteuil roulant et j'ai la chance d'avoir un véhicule aménagé qui me permet de conduire. À ce jour, il n'y a pas de traitement, donc on est plus sur de la gestion au quotidien, donc des douleurs et puis bon, avec beaucoup de kinésithérapie pour essayer de maintenir au maximum les muscles en forme en attendant les traitements. Donc je vis seule, donc j'ai la chance de pouvoir être accompagnée de Philo, mon chien d'assistance. Donc ils m'aident quand même au quotidien et qui me permet de garder mon autonomie. Et donc oui, je travaille, je suis pharmacien dans l'industrie médicale. Oui, ben, je pense que c'est vraiment un combat de tous les jours. En fait, ben, y a des jours où tout va bien, il y a des jours où ça va moins bien. Et puis ce qui est important à se rappeler, c'est qu'en fait notre vie, elle est vraiment totalement organisée. C'est-à-dire que le moindre grain de sable dans la journée va vraiment venir bouleverser le rythme de cette journée. Donc, puis bon, il ne faut pas oublier que ce sont des maladies évolutives, donc ça nous demande une réadaptation continuelle de notre mode de vie et Le côté psychologique n'est pas toujours facile aussi, mais voilà, il faut se battre et on va y arriver.
Est-ce que vous avez des accompagnements c'est prévu, par exemple vous avez la possibilité de consulter, par exemple, des médecins, peut-être, qui peuvent vous aider. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des aides?
Concernant... En fait, la prise en charge des maladies neuromusculaires, il y a des centres de référence un peu partout en France, avec des visites pluridisciplinaires. Donc annuellement, on a notre visite avec le chirurgien et puis avec d'autres spécialités comme le cardiologue, les tests respiratoires pour nous permettre d'avoir un suivi dans le temps de notre pathologie et de son évolution. Et concernant les aides, malheureusement, ça reste encore un sujet très compliqué, même si faut l'avouer, il s'est passé beaucoup de choses et les choses avancent quand même, mais c'est vrai que c'est du matériel qui coûte extrêmement cher, qui aujourd'hui a une faible prise en charge. Alors, je dirais que du coup, on avance quand même beaucoup, les gens sont de plus en plus ouverts sur le handicap, avec une bienveillance, même si des fois on est quand même confronté à des cas qui nous énervent un petit peu au quotidien parce que on a l'impression que c'est de l'injustice. Mais je pense que moi, en tout cas, quand j'ai toujours demandé de l'aide à quelqu'un, on ne m'a jamais refusé. Je pense qu'il suffit d'expliquer, d'avoir un sourire. Et puis les gens sont de nature quand même assez bienveillantes. Donc au quotidien, c'est un combat. On lutte parfois parce qu'il y a un trottoir, parce qu'il y a une voiture qui est mal garée. Mais dans l'ensemble, les choses avancent et c'est positif. Oui, je pense que le fait d'avoir été ambassadrice en 2016 et vraiment de ressentir ce mouvement de patients qui avait énormément d'attentes envers moi m'a donné un petit peu cette envie de me battre au quotidien. Et vraiment, c'est devenu aujourd'hui très important pour moi puisque j'ai créé le groupe d'intérêt sur les myopathies des ceintures. Et réellement, le but, ma finalité, c'est d'arriver à trouver des traitements pour ces pathologies-là, oui.
Mandine, arnassienne, est atteinte de myopathie des ceintures. Elle porte témoignage dans cette édition à l'occasion de la mobilisation annuelle du Téléthon 2019 des 6 et 7 décembre prochains. Un appel aux dons pour multiplier les victoires et vaincre la maladie, comme elle nous le confie. Découverte de la nouvelle exposition temporaire du Musée Paul-Digny à Villefranche, Beaujolais Art, Hommes et Territoires, de la Révolution à nos jours, en compagnie de Marie-Lou Perrino-Nosca, elle est responsable des services du public du musée.
Alors du coup, l'idée qui guide toutes nos expositions temporaires, c'est aussi de mettre en valeur un aspect de notre collection. Et là, pour le coup, avec cette exposition sur le Beaujolais, c'était de mettre en valeur à la fois les artistes qui ont travaillé dans le Beaujolais, qui ont vécu, mais aussi les artistes qui ont porté un regard sur le territoire. Donc du coup, on va avoir par exemple, on a évoqué la figure de Théodore Lévigne, qui va avoir des commandes pour représenter des familles implantés dans le territoire, par exemple les quatre portraits de la famille Fort qui sont des marchands de vin. Donc il y a vraiment cette volonté de porter un regard sur les personnes un petit peu importantes, illustres du territoire. Mais il y a aussi des visions, des paysages, etc. On a vu la figure d'Adolphe Valette, qui est un peintre qui est proche des impressionnistes dans son travail. Et donc du coup, sur le travail de la lumière dans le paysage, des couleurs, etc. Donc on va avoir des gammes colorées qui sont propres au paysage du Beaujolais, une organisation aussi des formats, des compositions qui vont être propres à ce paysage, à ce territoire fait de vallons, etc. Donc on a un regard qui est très général sur le Beaujolais porté par ces artistes qu'on présente.
Peut-être un peu plus contemporain, proche de nous. Et célébrités peut-être un peu plus connues, Valadon également, Uther.
Oui, Uther, Utrio, Valadon, des artistes qu'on aime beaucoup au Musée Paul Digny, qu'on a déjà abordé dans des expositions.
Qui ont séjourné.
Ils ont séjourné au château de Saint-Bernard. Ils ont une histoire avec le Beaujolais qui est assez intéressante parce qu'ils ont découvert le Beaujolais par le biais d'un ami qui était viticulteur. Et donc du coup, ils ont pu séjourner à plusieurs reprises dans le Beaujolais. Et puis ensuite, ils ont décidé, en tout cas Uther, a décidé d'acheter le château de Saint-Bernard. Et donc, alors c'est pas tout à fait dans le Bourget, on est de l'autre côté de la Saône, mais ils ont pu en tout cas prendre le temps de représenter le paysage, son mode de vie aussi. On le voit dans la salle qui est consacrée à cette Trinité. On a un regard qui est très sur une ruralité qui est très tranquille, qui est très paisible. On a un regard qui est attendri presque sur la vie dans le Beaujolais.
Alors un regard attendri aussi, puisque vous accueillez le regretté décédé peintre Hubert Munier. Oui. Également.
Oui, effectivement, comme on l'a évoqué, Hubert Munier, c'était un artiste qui était très proche de ses sujets, à la fois dans les paysages qu'il représentait, mais aussi dans les personnalités. Et on parlait des figures illustres du Beaujolais qui sont évoquées dans l'exposition, mais il y a aussi la question des anonymes, puisque l'âme du territoire, c'est aussi celle des habitants, et Hubert Munier, c'est l'artiste par excellence qui va s'intéresser à ses habitants anonymes.
Ne manquez pas la toute nouvelle exposition temporaire du musée Paldini à Villefranche, Beaujolais art, homme et territoire, de la Révolution à nos jours, jusqu'au 16 février prochain. Et pour conclure cette édition, sur la scène du Théâtre de Villefranche, les 25, 26 et 27 octobre prochains, les troupes sélectionnées pour cette nouvelle édition du Festival de théâtre amateur Terre de Seine, à l'initiative de l'Office culturel de Villefranche, en compétition et avec nous, la troupe de théâtre En Soi de Morancy et la compagnie du boulevard de Glézy.
Donc Brigitte Munil, metteur en scène dans l'association qui s'appelle Théâtre En Soi, donc En Soi en deux mots, hein, sur les émotions essentiellement. Et nous sommes en résidence au théâtre de Castelcom à Ans.
Alors moi je suis Vincent Tantaro, je fais partie de la compagnie du boulevard qui est une compagnie qui est en résidence au théâtre de Glézé depuis plus de 20 ans. Moi j'attache beaucoup d'importance aux amateurs et il faut bien préciser aussi que ce sont grâce aux amateurs que certaines pièces vont jusque dans le public qui ne va pas au théâtre d'habitude. Mais quand une pièce amateur est proposée dans leur commune, dans une salle des fêtes, dans un petit théâtre, eh bien d'un seul coup, ils vont y aller et ils vont découvrir une pièce d'un auteur qui est joué normalement professionnellement et la réputation de cet auteur va être de plus en plus grande.
Les théâtres amateurs permettent à certaines personnes qui n'ont pas accès au théâtre de venir voir ces pièces, ces auteurs. Il y a des amateurs qui pourraient être très bien professionnels. Voilà, et bon, après, effectivement, il y a vraiment des amateurs qui sont presque des pros et qui, eux, n'ont pas effectivement cette fameuse fiche de paye qu'ont les professionnels, c'est sûr.
Le théâtre guérit des maux de ce monde, peut-être.
Tout à fait.
Qu'il guérit des maux MAUX, mais aussi des maux MOTS. Ouais. Voilà, parce que beaucoup de maux sont ignorés par le grand public populaire, hein, dont je fais partie, et des auteurs sont découverts grâce à des pièces jouées par des amateurs. Des livres que personne n'aurait peut-être jamais lus s'il n'y avait pas eu ces pièces jouées par des amateurs.
Alors le Festival Terre de Seine, pour revenir effectivement à ce qui nous occupe du 25, 26 et 27 octobre prochain. Deux mots alors maintenant pour terminer sur vos spectacles respectifs que vous allez proposer.
Donc moi c'est une pièce qui a été écrite par Denise Chalem en 2003-2005 qui s'appelle « Dis à ma fille que je pars en voyage ». C'est la rencontre de deux femmes qui ne se seraient pas rencontrées par ailleurs. Donc qui vont se rencontrer dans un univers carcéral, un univers où il y a de la violence, mais il y a aussi de la tendresse et de l'amour. Donc c'est une rencontre de femmes complètement différentes. Dominique qui a des allures très rudes, voilà, un parler franc qui vient effectivement d'un milieu très modeste. Et la deuxième personne qui arrive, qui est plutôt une bourgeoise, bonne éducation, etc. Donc c'est la rencontre de ces deux femmes qui vont s'affronter, qui vont se détester et qui vont apprendre à se connaître pour finir avec une belle histoire d'amour. Des délits complètement différents, une qui a commis un meurtre et l'autre une escroquerie. C'est une pièce pleine de tendresse, d'humanisme, et on y pleure, on y rit.
Oui, alors l'illusion comique de Corneille, c'est une pièce que Corneille a écrite à l'âge de 29 ans. C'est une pièce en alexandrin, mais revue et corrigée. Alors les alexandrins sont respectés, mais le metteur en scène, qui est très talentueux, a fait une véritable création au niveau de la mise en scène, qui est très moderne, avec des musiques actuelles, des expressions de tous les jours, qui viennent justement donner une petite respiration à ces alexandrins. Voilà, c'est l'histoire d'une mère, mère. Enfin, en l'occurrence, dans la pièce de Corneille, au départ, c'est un homme. Nous, on a décidé que ce soit on a adapté avec une femme. C'est une femme qui recherche son fils qu'elle a renvoyé, renié des années auparavant. Elle vient voir un mage. Et autour de ce thème, toute la magie opère avec des personnages, des costumes et une mise en scène vraiment exceptionnelle et déjantée. Mais tout en respectant les mots de Corneille.
N'hésitez pas à retrouver la troupe de théâtre en soie de Morancé et la compagnie du boulevard de Glisé, mais bien évidemment toutes les autres troupes. 9 pièces de théâtre, matin, midi et soir, pour le festival de théâtre amateur Terre de Seine, les 25, 26 et 27 octobre prochains, à ne pas manquer. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.